Ben.
La une ce matin, ce sont ces mots de la ministre déléguée Catherine Chabot sur la pêche, les AMP, l'inspiration aussi qu'elle a trouvée en Polynésie. On parlera également de ce putsch au syndicat Atiaimua et puis du surf pour terminer. Les trials de la Tahiti Pro commencent demain. Le journal de la rédaction présenté par Lucie Abreu. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Rahui, pêche durable, SWAC, la ministre déléguée chargée de la mer a trouvé en Polynésie de l'inspiration en matière d'économie bleue.
Oui, découverte du Rahui, un concept que Catherine Chabot ne connaissait pas. Visite du SWAC qu'elle connaissait là pour le coup de longue date. Elle rêve d'ailleurs de voir émerger un projet pilote d'énergie thermique des mers en Polynésie. Les Outre-mer sont un peu comme des bateaux qui doivent chercher leur autonomie énergétique, a-t-elle dit. Et durant cette visite de 5 jours, Catherine Chabot a aussi été interpellée sur plusieurs sujets sensibles. Hier, elle était sur le port de pêche. Les professionnels lui ont parlé des DCP dérivants. Une vraie problématique et pas de stratégie encore, mais elle est décidée à trouver une solution. Ces quotas de pêche aussi qui pourraient être instaurés à l'échelle régionale. Elle assure que l'État donnera de la voix pour défendre la pêche palangrière locale. Elle était au micro de Charlie René.
Je leur ai répondu qu'on allait se battre à leur côté, c'est-à-dire qu'il y a une négociation à la fin de l'année et je pense qu'il va falloir qu'on soit peut-être un peu plus vocal, État et pays, pour faire valoir les droits des pêcheurs. Polynésiens, quand on regarde qu'à l'extérieur, les autres pratiquent une pêche plutôt à la saine, pas forcément aussi respectueuse de l'environnement, je pense qu'on a quelques arguments. Mais voilà, c'est à construire dans les mois qui viennent d'ici la négociation sur cette ORGP.
Voilà, les ORGP, ce sont les organisations régionales de gestion de la pêche, là où se discutent donc les fameux quotas. Les pêcheurs lui ont évidemment parlé des AMP, un sujet qui fait débat depuis plusieurs semaines maintenant en Polynésie. Et effectivement, la création de cette AMP avec ensuite d'autres zones de protection, celle des Marquises, celle des Australes, tout ça est peut-être un peu allé trop vite.
On ne crée pas une aire marine protégée en traçant un trait de crayon sur une carte. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut protéger. Donc, il faut d'abord faire passer la science. Ensuite, il est absolument essentiel de mettre tout le monde autour de la table parce que ça se co-construit. En fin de compte, l'aire marine protégée, c'est un outil de gestion de l'océan. Donc, on met tout le monde autour de la table. Et c'est, voilà, il ne faut pas griller ces étapes avant d'identifier les zones.
La ministre Catherine Chabot suggère surtout à Moïta Ibroverson, je cite, peut-être un peu poussée par les ONG, de temporiser. C'était l'une des critiques faites au gouvernement, être sous influence de ces ONG. Et puis cette question d'ailleurs, est-ce que finalement ces organisations ont des intérêts convergents avec ceux de la Polynésie et ceux de la France?
Je ne commenterai pas, je les connais pour certaines. Elles veulent créer de grandes aires marines protégées, ça peut être pertinent. Du reste, elles devraient peut-être se concentrer sur la haute mer. Il faut faire en fait attention de ce que l'on fait, parce qu'en fait, il peut y avoir des transferts d'impact. En l'occurrence, on a un peu regardé là où elles voulaient les proposer, où elles les ont proposés, etc. Et il pourrait y avoir des transferts d'impact. Je dis pas que c'est pas là où il faut en mettre. Je dis que attention, c'est pas forcément exactement la méthode. Une fois qu'on aura mis la méthode en route, est-ce qu'on en créera là? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est de la compétence du pays.
Concernant le traité BBNJ, la ministre souhaite que la proposition d'aire marine protégée internationale dans le Pacifique soit un projet porté par l'État et le pays. Voilà une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site radio1.pf.
Et on continue avec ce putsch au syndicat Atiaimua.
Un comité directeur s'est réuni lundi pour évoquer l'ensemble du secrétariat exécutif de la Confédération et notamment Avaiki Teuyahu et en élire un autre. Et c'est donc le retour de Jean-Marie Yantou, Pico, comme tout le monde l'appelle, membre fondateur de Atiaimua en 1984. Il en avait été le secrétaire général de 2000 à 2014, puis après un retrait pour cause de condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de 2018 à 2022. Cette figure du syndicalisme local, ancien travailleur de Moruroa, dit qu'il serait bien resté chez lui, mais rien n'allait plus au syndicat.
Dès la première année, elle a commencé à virer les anciens qui étaient avec moi. Il y en a certains qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient plus travailler avec elle. De 12 personnes, elle s'est retrouvée avec 4. Il y a un problème, on ne peut pas travailler avec 4 personnes, c'est pas possible. Et dès la deuxième année, après moi, j'ai retrouvé 3e derrière Autry. Bon, j'ai laissé faire, mais les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, hey, Pico, il faut que tu reviennes, il faut qu'on revoie ça, parce que ça ne va pas. Plus personne ne vient, les adhérents sont partis, les structures, ils sont partis. Oh là là.
Mais ce retour doit encore être confirmé juridiquement. Avaiki Tehuyahu n'a pas participé à la réunion de lundi. Pour elle, les décisions qui ont été prises sont contraires au statut et n'ont aucune valeur. Et elle compte bien aller en justice. Pour elle, c'est juste Picot qui veut se trouver un poste après la fin de son mandat au CESE.
Il partait sur un poste au CESE. Là, maintenant qu'il a perdu ce poste, le calcul est simple, c'est qu'il souhaite revenir sur le poste de secrétaire général. Après, moi, je suis pas une personne liste qui obéit à tout ce qu'on me dit. Hein. J'ai mes convictions, j'ai mon tempérament, et puis j'ai la cause pour laquelle j'ai accepté ce poste à défendre. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire, quand vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous dites qu'il a la rage, hein, et puis voilà. Hein.
Voilà, une affaire qui se réglera donc devant les tribunaux.
À 7h06 dans ce journal, on parle politique à présent avec la candidature de Temara Mavarné pour les sénatoriales.
Il sera le candidat à HIP. Ce professeur des écoles connu pour son engagement syndical au sein de l'UNSA avait mené la liste du Parti Vert au municipal à Pierret. Il avait obtenu 2 sièges avec près de 15% des voix.
Et puis l'actualité, c'est aussi cette famille de Toulon suspectée d'avoir attiré, dépouillé plusieurs militaires du Pacifique.
Oui, une famille dont plusieurs membres ont été mis en examen pour traite d'êtres humains en bande organisée, violence et séquestration et les faits pourraient être encore plus graves. Les enquêteurs s'intéressent à la disparition de 2 militaires, un Calédonien et un Polynésien, qui ont fréquenté la famille et n'ont plus donné signe de vie depuis 2022 et 2023. Les investigations ont mené à la découverte d'ossements. C'est en cours d'identification.
Et puis un accident mortel s'est produit hier à Marine.
Un homme circulant à vélo électrique a été percuté par une voiture de location. La victime, une personne âgée, est décédée sur les lieux. C'est le 23e décès sur la route depuis le début de l'année.
Vous écoutez le journal de Radio Inter et la famille, il est 7h07 et c'est aujourd'hui que les nouvelles mesures de la loi anti-tabac entrent en vigueur.
Oui, interdiction des puffs à usage unique, prohibition des arômes complexes, un encadrement renforcé des points de vente, moins de visibilité des produits, système de licence. Un pas de plus donc dans la lutte contre le tabagisme. D'après les chiffres du pays, 5 décès liés au tabac sont recensés chaque semaine. Beaucoup, beaucoup trop pour le directeur de la santé, Francis Spack. Pas question pour lui donc de laisser les jeunes se laisser piéger par le marketing de la vape.
C'est des produits qui ont été d'ailleurs marketés, hein, qui ont été créés et designés pour attirer un public jeune, pour refaire une clientèle de l'industrie du tabac. Hein. Donc c'est des produits qui sont colorés, qui sont fruités, justement pour toucher cette population-là. Le risque, c'est que plus on consomme tôt une substance addictive, plus on risque de devenir addict. À titre d'exemple, sur 3 adolescents qui consomment une première cigarette, il va en avoir 2 qui vont fumer pendant 10 ans qui vont suivre.
L'application de la loi tabac 2 n'est qu'une étape. En janvier prochain, ce seront les terrasses de bars et certaines plages où cigarettes et vapes seront interdites. De nouvelles règles qui sont des étapes donc vers une génération sans nicotine.
Et oui, le sport, c'est la santé. On termine par là avec du surf.
Oui, alors que le Championship Tour de surf sera à Tehahupo du 8 au 18 août, les locaux affûtent déjà leurs planches pour les trials. Ça devrait commencer demain. L'année dernière, c'est Mihimana Braille qui avait emporté sa wildcard pour le main event aux côtés de Kelia Galina. À tout juste 13 ans, c'était une première et elle avait fait le buzz. Le gratin du surf polynésien sera de nouveau au rendez-vous cette année avec une surprise. Michel Bourès qui s'est chauffé au dernier moment pour ses trials. C'est son frère qui en parle, le cadre technique de la fédération de surf, Kevin Bourès, et qui encourage les jeunes à se lancer pour se mesurer à Tehahupo, mais aussi au plus haut niveau. Tehahupo est un passage obligé, dit-il. On a commencé à l'écouter. On va continuer.
Ici, juste à côté de chez nous, on n'a pas besoin de faire des heures de voyage et de traverser par exemple pour aller surfer cette vague. Donc c'est vraiment une opportunité pour nos jeunes. Il faut qu'ils la surfent le plus possible. Pendant le stage héritage, on essaye de se déplacer sur Tehahupo et la presqu'île le plus possible. On voit que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus précoces. Ils arrivent à y aller dans des conditions de plus en plus grosses, mais aussi à se mettre en sécurité. Ils ont tous le casque.
Et la fédération qui s'est aussi engagée dans ce débat sur la sécurité du plan d'eau au moment des grosses houles, on l'écoute.
Ben en fait, il y a tout un univers qui essaie de se partager un tout petit espace. Donc il y a les photographes qui sont à l'eau, il y a les surfeurs, il y a les bateaux, il y a les taxi-boats, et tout ça dans un tout petit espace, dans une faille, avec des tonnes et des tonnes d'eau qui arrivent juste là. Donc, c'est impressionnant. Et c'est vrai que quand on voit des touristes, des personnes âgées ou des enfants qui sont plus près de la vague, ils ont rien à faire là. Et les surfeurs, les photographes, on est là pour travailler, on est là pour faire rayonner aussi la Polynésie à l'international. C'est dommage d'en arriver là, mais il va falloir sanctionner et mettre des règles parce que là, c'est vraiment plus possible.
Voilà un débat dont on a parlé lors des dernières grosses houles et la Fédération Tahitienne de Surf qui essaie donc de mettre tout le monde autour de la table pour mettre ces règles en place. Alors pas ce problème pour la compétition dès demain. Lors de la compétition, la sécurité est bien là. Les trials qui permettent aux locaux de gagner leur place sur l'étape Tahiti Pro du CT. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, à toutes.